Bonjour à tous et bonjour à toutes, merci de me retrouver dans la partie vocabulaire du module 78. Il s'agit du module « Comment faire face à la timidité ». J'espère que le module vous a plu, j'espère qu'il a été utile et que vous pourrez réutiliser les conseils. En tout cas, j'espère que vous avez appris des choses. Nous nous retrouvons dans la partie vocabulaire pour expliquer quelques mots que vous avez pu entendre. Johan en a expliqué certains pendant le module, mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin en expliquant d'autres. L'idée est que vous compreniez ces mots en contexte, sans utiliser la traduction, en français uniquement, pour que vous puissiez bien assimiler les mots, pour que vous puissiez les comprendre, et surtout les réutiliser. On a un certain nombre de mots à voir, alors je vous propose qu'on commence tout de suite. Le premier mot, c'est le mot « atout ». Un atout, c'est une caractéristique qui représente un avantage chez quelqu'un. C'est quelque chose qui lui donne une chance de réussir quelque chose. Par exemple, si vous cherchez un nouveau travail, on pourrait dire que votre atout, c'est le fait que vous parliez français. C'est un avantage sur d'autres potentiels candidats, quelque chose dont vous pouvez vous servir. Quand on pense que quelqu'un a beaucoup de qualités ou beaucoup d'avantages, on dit même « il a quelques atouts dans sa manche ». Un atout, ça peut être n'importe quoi. Vous pourriez dire « son atout, c'est son sens de l'orientation », ou bien « son charisme est son meilleur atout ». Ça dépend vraiment du contexte. Puis on a l'expression « sous le feu des projecteurs ». Ça, c'est une expression qui est toujours utilisée telle qu'elle. « Sous le feu des projecteurs ». Alors un projecteur, qu'est-ce que c'est ? Un projecteur, c'est une sorte d'appareil, ça peut être plus ou moins gros, et c'est souvent utilisé pour les spectacles, par exemple. Une scène de théâtre ou une scène de concert. C'est pour éclairer, c'est pour projeter de la lumière. Donc, si on imagine être sous le feu des projecteurs, donc sous la lumière des projecteurs en quelque sorte, c'est comme si vous étiez sur scène, en train de faire un spectacle ou en train de vous exprimer en public. Alors cette expression, elle veut dire être l'objet de toutes les attentions, être le centre de conversation. Les gens vous regardent, les gens parlent de vous. Donc ici dans le module, on vous dit le but n'est pas d'être sous le feu des projecteurs. Donc ce qu'on vous dit, c'est que les conseils que Johan vous donne n'ont pas pour objectif de faire de vous le centre d'attention. Pour un autre exemple, vous pourriez dire « ma fille, quand elle était petite, elle adorait être sous le feu des projecteurs ». Ça veut dire qu'elle avait toujours besoin d'attention. Elle aimait bien qu'on la regarde. Peut-être qu'elle faisait des petits spectacles. Elle voulait attirer l'attention. Ensuite, on a le mot « spectre ». Alors attention, il a plusieurs sens assez différents, mais on va se concentrer sur le sens utilisé dans le module. Un spectre, donc, c'est un mot qu'on utilise pour désigner l'ensemble de quelque chose. Un exemple très parlant, très visuel, ce serait de parler du spectre de couleurs. Quand on parle du spectre de couleurs, on veut représenter l'ensemble des couleurs qu'on peut imaginer. Souvent, le spectre de couleurs est représenté sous forme d'un arc-en-ciel, avec chaque nuance de couleur. Donc si vous imaginez cet arc-en-ciel de toutes les nuances, vous voyez que ça prend un certain espace, on englobe l'ensemble des couleurs, et c'est ça qu'on appelle un spectre. Dans le module, Johan vous parle du spectre très large de la timidité. Ce qu'il veut dire donc, c'est que la timidité, c'est un ensemble de beaucoup de variétés de timidité possibles, et que cet ensemble est très très large. Peut-être que chaque personne est timide à sa façon. Donc dans le module, quand Johan parle de timidité, il ne peut pas couvrir tout le spectre de la timidité, parce qu'il est trop large. Un peu plus loin, on a le mot « hostile ». Hostile, c'est un adjectif qu'on utilise pour décrire une personne, un lieu, une situation, d'une façon un peu inquiétante, dangereuse même. Si on parle d'une personne hostile, alors on parle d'une personne qui a un comportement violent, un peu agressif, avec de mauvaises intentions. Pour une situation ou un lieu, c'est pareil, il y a une notion de danger. On ne se sent pas en sécurité dans un lieu hostile. Dans le module, on vous parle de survivre face à un monde hostile. Donc on vous parle de rester en vie dans un monde rempli de dangers. Pour un autre exemple un peu plus concret, un peu plus terre à terre, Si je vous dis que mon nouveau collaborateur a un comportement très hostile, eh bien, je veux dire que cette personne se comporte d'une façon un peu violente, ou en tout cas pas très amicale. J'ai l'impression que ce nouveau collaborateur a de mauvaises intentions. Ensuite, le mot pénalisant. Pénalisant, c'est quelque chose qui cause un désavantage. Dans la même famille, on a le verbe pénaliser. Ça veut dire désavantager. Ici, bien sûr, on parle d'une grande timidité qui peut parfois poser des problèmes dans la vie de tous les jours. Parfois, la timidité, c'est pénalisant. Et si on reprend notre exemple de tout à l'heure, vous cherchez un nouveau travail. Eh bien, peut-être que le fait de ne pas parler français peut être pénalisant pour certains emplois. Si vous trouvez un travail dans un pays qui parle français, mais que vous ne parlez pas français, ça peut être pénalisant. Bon, heureusement, vous, vous parlez français, donc tout va bien. Puis on a le verbe « se débarrasser ». Se débarrasser, ça veut dire se défaire de quelque chose ou de quelqu'un. Se séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Attention, hein, on dit bien se débarrasser de quelque chose, de quelqu'un. Faut pas oublier la préposition « de ». C'est un verbe assez familier, mais c'est très courant. Donc on peut vouloir se débarrasser de vieux vêtements, par exemple. Ça veut dire qu'on ne veut pas les garder, on veut s'en séparer. Ou bien, imaginez que vous êtes au téléphone avec quelqu'un et que cette personne parle, 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 et vous, vous avez autre chose à faire. C'est pas que vous n'aimez pas cette personne, mais vous aimeriez bien que la conversation s'arrête. Eh bien, vous pourriez penser, mais comment je vais me débarrasser d'elle? Comment je vais faire pour quitter cette conversation? Comment je vais mettre fin à cette conversation? Se débarrasser de quelque chose ou se débarrasser de quelqu'un. Alors attention, il faut toujours prendre en compte le contexte. Si vous regardez par exemple des films policiers en français, des vieux films avec des gangsters par exemple, et qu'on parle de se débarrasser de quelqu'un, le grand chef dit « débarrasse-toi de lui », ça ne veut pas forcément dire qu'on ne veut plus fréquenter cette personne. Ici, on parle plutôt de meurtre. Donc attention au contexte. C'est une exception, bien sûr. Dans la vie de tous les jours, si on parle de se débarrasser de quelqu'un, on parle rarement de meurtre, ne vous inquiétez pas. On continue avec le mot pudique. Pudique désigne quelque chose qui peut être physique ou émotionnel, mais dans les deux cas, ça veut dire qu'on n'a pas envie de montrer ou de dévoiler quelque chose. D'un aspect physique, ça veut par exemple dire qu'on n'a pas envie de montrer son corps. On veut préserver une certaine intimité. Il y a des gens, par exemple, qui ont du mal à aller à la piscine parce qu'ils n'ont pas très envie de montrer leur corps. Ils sont très pudiques. Ça, c'est le côté physique. Et pour l'aspect émotionnel, c'est un peu la même chose. On ne veut pas montrer une certaine partie de sa vie. Ça peut être exposer ses sentiments, dévoiler des détails de sa vie privée. Ça veut dire qu'on veut protéger quelque chose d'intime. Être pudique, ce n'est ni forcément une qualité, ni forcément un défaut. Ça dépend du contexte. Parfois, on peut être trop pudique, mais parfois, être pudique ou avoir de la pudeur, c'est une bonne chose. Ensuite, on a l'adverbe « certes ». Alors « certes », vous l'avez probablement entendu plus d'une fois, et parfois je sais qu'il peut porter à confusion. Alors essayons de rester simple, mais clair. « Certes », c'est un adverbe qu'on utilise pour deux choses. La première chose, la plus courante selon moi, mais aussi celle utilisée dans le module, c'est pour souligner une opposition. La phrase en entier du module, c'est « Certes, on anticipe parce qu'on n'a pas envie d'être pris en défaut face aux autres, mais c'est une grande force d'anticiper, de planifier, de préparer. » Donc vous voyez, on a « certes » d'un côté et « mais » de l'autre. On fait une opposition. C'est comme si on disait « c'est vrai, on anticipe, mais c'est une grande force. » Un autre exemple. Certes, je suis fatiguée, mais je vais quand même venir. J'ai trop envie de te voir. Encore une fois, c'est comme si on disait « c'est vrai que je suis fatiguée, mais je vais venir. » On fait une opposition de deux idées presque contradictoires. Ça, c'est la façon, je pense, la plus utilisée de « certes ». Et parfois, on utilise aussi « certes » en tant qu'affirmation, comme pour dire « certainement »,« bien sûr » ou « assurément ». Vous pourrez par exemple entendre « Est-ce que tu es certain ?» et on répondrait « Certes, oui ». Gardez en tête que c'est un peu soutenu d'utiliser « certes » comme affirmation, mais ça se fait également. Le mot suivant est le mot « déclic ». Un déclic désigne le moment où quelqu'un comprend quelque chose, quand quelqu'un a une réalisation. Quand vous entendez le mot « déclic », vous pouvez penser à l'onomatopée « clic », qui est le bruit qu'on utilise en français pour imiter le son d'un interrupteur. Donc vous savez, pour allumer et éteindre la lumière. Quand on allume ou qu'on éteint la lumière en français, on dit que ça fait « clic ». Donc imaginez que quand vous avez un déclic, quand vous comprenez quelque chose, quand vous avez une révélation ou une idée, quelque chose s'allume dans votre esprit, dans votre cerveau. On utilise parfois même l'expression « ça fait clic ». Vous dites par exemple « je ne comprenais pas du tout ce qu'il me racontait et tout d'un coup ça a fait clic, tout d'un coup j'ai compris, j'ai débloqué ce qui me posait problème ». Ou bien « je ne savais pas quoi lui offrir pour son anniversaire, mais pendant la nuit j'ai eu un déclic, il s'est passé quelque chose et j'ai tout compris ». Le mot suivant, c'est le verbe « apprivoiser ». Normalement, c'est un verbe qu'on utilise à propos des animaux sauvages. Ça veut dire les rendre moins craintifs, moins farouches, les dresser pour qu'ils soient moins sauvages, en fait. Mais on utilise également ce verbe pour parler de gens, pas toujours à propos des animaux. Si vous parlez de quelqu'un qui n'est pas très sociable, mais que vous arrivez petit à petit à vous rapprocher de cette personne, vous pouvez utiliser le verbe « apprivoiser ». Par exemple, j'ai mis du temps à apprivoiser mon mari quand on s'est rencontrés. Ça veut dire que j'ai mis du temps à réussir à me rapprocher de lui. Ce n'est pas péjoratif, hein. C'est très courant. Dans le module, on a même un autre contexte. On dit « apprivoiser sa timidité ». Donc ça veut dire apprendre à la connaître, à la diriger, à l'atténuer même. On pourrait dire « apprivoiser une nouvelle voiture », « apprivoiser une nouvelle coupe de cheveux ». Beaucoup de possibilités qui veulent toutes dire la même chose, rendre quelqu'un ou quelque chose un peu moins craintif, un peu moins farouche. Ensuite, on a le mot « blanc ». Alors blanc, vous vous dites sûrement « c'est bon, ça je le connais, j'ai pas besoin d'explication ». Alors effectivement, le premier sens de blanc, c'est bien évidemment la couleur. Et je me doute que vous le saviez déjà. C'est la couleur des nuages, de la neige, etc. Mais ici, on ne parle pas de couleur. Johan dit « je n'aime pas trop les blancs dans une discussion ». On ne parle pas de couleur. Ici, blanc désigne le silence qu'il peut y avoir dans une conversation. Donc, ce qu'il veut dire, Johan, c'est qu'il n'aime pas quand les gens arrêtent de parler. Vous savez, parfois, on ne sait plus trop quoi dire, la personne en face de nous non plus, alors l'échange s'arrête. Parfois, ça met un peu mal à l'aise. On peut parler d'un silence gênant. Eh bien, ce moment de silence, on appelle ça un blanc. Par exemple, vous êtes à un repas de famille et quelqu'un fait une blague que vous ne trouvez pas très drôle. Eh bien, vous pourriez dire « elle a fait une blague déplacée et il y a eu un gros blanc » ou un long blanc. Ça veut dire que les gens n'ont pas trouvé la blague très drôle et que tout le monde s'est arrêté de parler. Il y a eu un blanc, un silence, plus ou moins prolongé, dans la conversation. Ensuite, on a « ils prétendent ». L'infinitif, c'est le verbe « prétendre ». Prétendre, dans ce contexte, ça veut tout simplement dire « faire semblant ». Ici, Johan parle des gens qui ont confiance en eux, qui ne sont pas timides du tout, et il dit « peut-être que ces gens font un peu semblant d'avoir confiance ». Peut-être qu'ils prétendent. Ça veut par exemple dire « jouer un rôle », tout simplement. Imaginons que vous êtes au travail et que votre collègue est très en colère. Il vous dit « je me suis disputé avec le patron, il prétendait que je n'avais pas rendu le dossier alors que je suis sûr que je l'ai fait ». Ça veut dire que votre collègue pense que votre patron mentait. Ça veut dire qu'il pense qu'il faisait semblant de ne pas savoir où était le dossier. Si quelqu'un vous dit quelque chose d'incroyable, tellement incroyable que vous ne pensez pas que c'est vrai, vous pensez que cette personne ment, vous pourriez lui dire « mais tu ne peux quand même pas prétendre ça, tu ne peux pas prétendre que c'est vrai ». Ça veut dire « tu ne peux pas dire ça, tu dois forcément faire semblant ». Prétendre, c'est un verbe qui est très très courant utilisé comme ça. Vous l'avez peut-être déjà entendu de nombreuses fois. Puis vient le mot « applicable ». « Applicable » vient du verbe « appliquer ». Appliquer a différents sens, mais ici, ça voudrait dire « mettre quelque chose en place », »,« mettre quelque chose en œuvre » ou « en action ». Par exemple, dans votre travail, il y a des règles. Il faut arriver à telle heure, il faut avoir un code vestimentaire, vous avez certaines tâches à respecter. Eh bien, ces règles, il faut les appliquer, il faut les mettre en place, il faut les respecter. Donc, on pourrait également dire, cette règle est applicable à partir d'aujourd'hui. Donc, il faut respecter cette règle à partir d'aujourd'hui. Ici, dans le module, on parle de prendre quelques traits de personnalité de quelqu'un que vous admirez. Et on vous dit de ne prendre ces traits que s'ils vous sont applicables. Donc, ça veut dire que s'ils peuvent fonctionner pour vous, que si vous pouvez les mettre en action. Un autre exemple très concret, ce serait d'imaginer que vous remplissez un formulaire administratif, et vous savez, il y a toujours plein de cases à cocher. Parfois, il y a des cases qui ne nous concernent pas, en fonction de votre situation personnelle, professionnelle. Il y a plein de cases, mais il y en a seulement certaines qui vous concernent. Toutes les autres, elles ne sont pas applicables. Ça veut dire qu'elles ne fonctionnent pas pour vous. L'expression « brûler les étapes », c'est une expression qui est assez sympa, je trouve, et qui est très courante. Et ça veut dire aller trop vite pour parvenir à un résultat. Ça veut dire qu'on ne suit pas toutes les étapes nécessaires pour accomplir quelque chose, parce qu'on veut arriver directement au résultat. Et donc, souvent, ça veut dire qu'on fait mal les choses. Dans le module, on parle de sortir de sa zone de confort. Donc si vous allez trop vite, si vous brûlez les étapes, vous risquez de vous mettre dans une situation trop inconfortable et vous aurez l'effet inverse. Un exemple très concret, ce serait d'imaginer une recette de cuisine. Dans une recette de cuisine, vous avez littéralement des étapes. Parfois, elles ont même un numéro. Si vous brûlez les étapes, lorsque vous suivez une nouvelle recette, si vous allez trop vite, si vous sautez certaines étapes, il y a des risques pour que la recette soit ratée. Si vous êtes comme moi et que vous n'êtes pas très doué en cuisine, vous n'avez aucun intérêt à brûler les étapes. Prenez votre temps. Le verbe s'endurcir. On va découper ce mot pour changer. Dans s'endurcir, il y a le verbe durcir et même le mot dur. Dur, ça désigne quelque chose de solide, de résistant. On peut dire que les murs d'une maison sont durs. C'est le contraire de mou. Durcir, ça veut dire devenir dur. Passer d'un état qui n'est pas solide à un état solide. Si vous voulez réparer un trou dans un mur, justement, on peut dire que vous faites du plâtre. Au début, il est liquide, mais en séchant, il durcit. Il devient dur. Et le verbe s'endurcir, réflexif, ça veut dire devenir dur, mais pour une personne. Ce n'est pas forcément physique. La plupart du temps, c'est plutôt à propos du caractère. Dans le module, justement, on dit « tu vas t'endurcir ». Dans le contexte du module, on veut dire « tu vas devenir plus fort ». Tu vas devenir plus résistant. Mais c'est important de préciser que s'endurcir, ça peut être positif comme ici, devenir plus fort, mais parfois c'est un peu négatif. Parfois s'endurcir, ça peut vouloir dire perdre des émotions, être moins gentil, être plus dur tout simplement. On peut dire d'une personne qu'elle est dure, ça veut dire qu'elle est sévère. Depuis qu'elle a perdu son travail, elle s'est beaucoup endurcie. Ça peut vouloir dire qu'elle a gagné en sévérité. L'expression, ou plutôt la locution, « la veille au soir », elle aussi est assez souvent utilisée, mais il faut parfois la décortiquer un peu pour être sûr de bien la comprendre. La veille, ça désigne le jour d'avant, et au soir, bien sûr, ça veut dire en fin de journée. Donc, dans le module, on vous dit que si vous avez un événement stressant, la veille, donc le jour juste avant, il faut essayer de méditer un peu pendant la soirée, la veille au soir. Le jour d'avant, en fin de journée. Un autre exemple, j'avais complètement oublié mon examen de français. Alors j'ai révisé mes conjugaisons la veille au soir. Donc dans ce contexte, j'ai révisé un peu au dernier moment. Le verbe se cramer. Alors juste avant, un peu plus tôt, on parlait de brûler les étapes. Eh bien cramer, très familièrement, ça veut dire brûler. C'est familier, hein, mais c'est très courant. Admettons que vous cuisinez, ou plutôt que je cuisine, parce que comme je le disais, je ne suis pas très douée, et que ma recette brûle. Eh bien, je pourrais dire « Oh non, ça sent le cramer !» Ça veut dire « ça sent le brûler !» Donc, quand Johan dit « essaye de ne pas te cramer », il veut dire « essaye de ne pas te surcharger ». Fais attention à toi, à ne pas trop en faire. Puis le mot « diagnostic », qui est souvent lié au domaine médical, mais pas que. Lorsqu'on dit « faire un diagnostic », ou diagnostiquer, on veut dire identifier une maladie à partir de symptômes. Donc, vous allez chez le médecin, Vous lui dites vos symptômes. Je tousse, j'ai mal à la gorge, je me sens faible, etc. Et lui, grâce à ses symptômes, il va vous donner son diagnostic. Donc il va vous dire ce que vous avez. Mon diagnostic, c'est que vous avez la grippe, par exemple. C'est souvent attribué au médecin, hein, mais on pourrait l'utiliser dans d'autres domaines. Si votre voiture a un problème, vous allez voir un garagiste ou une garagiste et vous lui donnez les symptômes. Mon moteur fait un drôle de bruit. Il y a de la fumée, ça sent bizarre. Eh bien, le ou la garagiste vous fera un diagnostic. Ça veut dire qu'ils vous diront ce qu'ils en pensent grâce aux « symptômes » entre guillemets que vous avez donnés. Puis vient le mot « phobie ». Une phobie, c'est une crainte ou une peur extrême et parfois injustifiée de quelque chose. Quand on a une phobie, on angoisse ou on panique et souvent, ça nous empêche de faire des choses ou d'aller à certains endroits. Ici, on parle de phobie sociale. Donc, ça veut peut-être dire qu'on a l'angoisse de la foule, on a peur d'être vu en public, on ne se sent pas bien lorsqu'on est entouré de monde ou lorsqu'on est juste en train de discuter avec des gens. Mais on parle aussi de phobie des hauteurs, le vertige par exemple, ou de certains phénomènes météorologiques. Il y a des gens qui ont la phobie des orages. Parfois, ce sont des peurs maladives. Ce n'est pas juste qu'ils ne se sentent pas très bien. Ils sont vraiment terrifiés. Et souvent, c'est un mot qu'on n'utilise pas toujours très bien en français. On a tendance à dire « j'ai la phobie de telle ou telle chose », comme si ça voulait juste dire « je n'aime pas ». Mais une phobie, c'est quelque chose de bien plus intense. Et parfois, c'est reconnu médicalement. Et enfin, on finit avec l'expression « prendre son mal en patience ». C'est une expression qui paraît peut-être un peu compliquée si on essaye de la comprendre mot pour mot, mais en réalité, c'est très simple. Prendre son mal en patience, ça veut juste dire qu'il faut être patient. Ici, on parle de prendre son mal en patience pour se débarrasser ou diminuer la timidité. Ça risque de prendre un peu de temps, et il faut l'accepter. Ça ne sert à rien de vouloir se dépêcher, se faire violence, comme on dit, et ressentir de mauvaises choses. Il faut être patient, c'est tout, il n'y a pas vraiment d'autre solution. Et un autre exemple, ce serait d'imaginer que vous décidez de commencer à apprendre à jouer du piano. Vous n'en avez jamais fait, mais aujourd'hui, vous voulez apprendre à jouer du piano. Alors, je ne suis pas pianiste moi-même, mais je suis convaincue que ça risque de prendre un peu de temps d'apprendre à jouer du piano. Alors il va falloir pratiquer, persévérer et prendre son mal en patience. Même si vous êtes pressé, même si vous voulez apprendre à jouer très très vite, il faudra malgré tout être patient. C'était la dernière expression de ce fichier vocabulaire. Merci d'avoir pris votre mal en patience et d'être resté jusqu'au bout des explications. J'espère que ce n'était pas trop long, j'espère que je ne vous ai pas perdu, et surtout j'espère que vous avez appris des choses. Même si vous connaissiez déjà tous ces mots, les entendre dans différents contextes vous aura peut-être un peu aidé, en tout cas j'espère. Si certains de ces mots sont encore un peu obscurs pour vous, réécoutez ce fichier vocabulaire, réécoutez-le plusieurs fois. Réécoutez le module également, pour bien entendre les mots en contexte, pour mieux comprendre, pour aller un peu plus loin. Bien sûr, on n'a pas pu expliquer tous les mots du module, ça ne serait pas possible. Alors, s'il y en a certains que nous n'avons pas expliqués, mais que vous n'avez pas compris, faites vos recherches, allez chercher vos propres définitions, soyez actifs. C'est lorsqu'on est actif qu'on retient le mieux les choses. Et si vous voulez être actif, je vous invite d'ailleurs à pratiquer votre prononciation, dans le fichier prononciation, bien sûr, de ce module. Dans tous les cas, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout avec moi. Je vous félicite d'avoir fait l'effort d'écouter ce fichier. Vous avez été actif. Je vous souhaite beaucoup de courage pour la suite de votre pratique. Et je vous dis à très bientôt.